Il est 1h sur Phare FM, c'est la nuit autrement qui vous accompagne. C'est Mireille avec vous jusqu'à 5h et j'espère que tout va. Très bonne écoute.
La Bible dit:
prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien les uns envers les autres comme envers tous.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Couple kids with some fire in our hearts, living on a prayer and wishing on a star. That summer love turned diamond ring. Been saying this since I was 17. When this young with a couple kids of our own, dug some roots down, now we're watching them grow. Everything has changed, but nothing's changed you and me. Nah, been saying this since I was 17. When this young
sur terre, et j'ai un téléphone qui fait de la lumière. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune, car après tout, on peut se nourrir d'espoir. La 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 la
la la la la la la la la la la la. Ma veste c'est de mode, je la laisse à l'abbé Pierre. J'ai mangé mon assiette, j'ai remis le couvert. J'ai goûté au futur, il a un goût amer. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles.
avalé les pépins, j'ai dévoré l'ennui, mais j'ai encore faim. J'ai léché les trottoirs, la faim jusqu'à la fin. J'ai voulu arrêter, mais je me suis bouffé les mains. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel, et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune.
On fait bien des choses qui n'est pas bon pour la planète et pourtant on peut toujours se nourrir d'espoir. Je ne sais pas exactement où va venir ses faces dans cette chanson, mais elle fait quand même réfléchir. Il est 1h06 et notre programme se poursuit sur Phare FM. Tout à l'heure, Mathieu Perrot va nous parler de l'esprit de conquête dans Pain de vie. Ce sera dans 7 minutes et avant cela de la musique, Jamie Grace tout de suite avec la chanson 1945 suivie de Limo Blaze, Talk and Do. Merci de rester avec Phare FM.
Minuit 5h, la nuit autrement
avec Mireille.
And my buckle up skates. How do I know about that? You say, you say. You wear bell bottom jeans, get a double take from all the guys and the girls who look your way. Back then, people didn't always agree, but the love going round was revolutionary. And even though the world was crazy, the truth is I got here right on time, and I thank God for every day in my life. It suits me just right, it suits me just right. And lovely 1991, that's the year that I come from, and I wouldn't want to trade it for another time. I love this life, yeah, I love this life. Ooh, 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 ooh. I love.
I love this life.
nobody go say shame on me, cause I follow your way, I follow your way.
Oh, no, 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 no.
Oh, I deny, can never lie. As you see me, so I'm settled for life.
He's too faithful to fail me.
Anyway, you send me to,
I go, go.
If you tell me, make us stay,
I go stay.
Tell who they wait, don't we down for.
I like it, you don't jump it, yeah.
Don't say no, one can say no. When Jesus says yes, your spirit inside me tells me I'm sorry.
Like, oh my God, he talk and do, talk and do. And there's no mountain he will not move. He never fails me. Now in blood they cover me. Daddy cover me with unending favor. Even bless my neighbor.
Oh, oh, I don't, I take your glory, your glory. For the many blessings them they notice and posting. Oh, Adonai, take your glory, for the many blessings that they notice. Oh, my.
Cause I like the way you do your things. You know, be man, know your way supreme. Daddy, the don't know,
he goes farther than the mind goes.
But I will serve you for the rest of my days. I no go take all the day. Now you want the light of my way. I no go look yesterday, no. Anyway, you send me to,
I go, go.
If you tell me, make us stay,
I go stay.
Tell the way.
Maintenant, votre message pain de vie avec le pasteur Mathieu Perrot.
Et le thème de notre semaine, c'est esprit de conquête. Lorsque le pasteur Patrice a annoncé le thème esprit de conquête, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand j'ai entendu esprit de conquête, c'est parti dans tous les sens dans ma tête. Moi, quand on me dit esprit de conquête, je me mets en mode conquérant. C'est, je vois Mel Gibson, Braveheart, toutes les conquêtes, les forteresses, les grandes batailles, les grands combats. On part à la conquête d'un pays promis. On est en guerre, on est une armée, waouh! On est des hommes, des durs, des vrais, puis on y va. Moi, c'est ça dans ma tête. Je repense aux sportifs, aux conquérants, ceux qui gagnent des records, ceux qui marquent l'histoire. Un Michael Jordan, sûrement le meilleur basketteur de tous les temps, ou en tout cas l'un des plus grands. Le débat n'est pas là ce matin, mais Michael Jordan disait ceci. Je n'ai jamais perdu un match. Ah, moi, franchement, quand j'ai lu ça, j'avais envie de l'appeler, lui dire, parce que j'ai son numéro, bien sûr. J'avais envie de l'appeler, lui dire, écoute, t'as perdu des matchs. J'ai la preuve, j'ai les vidéos. Et il dit, je n'ai jamais perdu un match. J'ai juste manqué le temps. Je me dis, ce gars-là, c'est un conquérant. Ce gars-là, il avait la victoire en vue, c'est obligé. Moi, je repense, j'ai lu cette citation d'un grand réformateur. Il disait ceci, envoyez-moi du bois, je vais vous renvoyer des flèches. Ça, le gars, c'est un guerrier. Le gars, c'est un conquérant. Tu lui envoies juste du bois, moi, je le mets à la cheminée, hein. Non, lui, il te renvoie des flèches. Je repensais à un grand conquérant, Hernando Cortés. En 1519, alors qu'il part à la conquête du Mexique, au moment où il arrive sur les bords du Mexique, la première chose qu'il a demandé à ses soldats, vous savez ce que c'est? Il leur a dit, brûlez les bateaux. Mais il est fou. Et en fait, il a dit à ses soldats, il n'y a pas de voyage retour. Hein. On n'est pas venu pour fuir, on n'est pas venu pour perdre et rentrer au pays. On est venu pour conquérir et on va conquérir et on va gagner. Bam, on brûle les bateaux. Ça, c'est un conquérant. Moi, je ne joue jamais. Ceux qui ont joué avec moi un jour, quel que soit le jeu, savent Mathieu Perrot ne joue pas pour participer. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Oh, c'est beau. C'est pas de moi. Et donc... Mais moi, c'est ça qui se passe dans ma tête. Et quand je lis la Bible, c'est la même chose. La vie des apôtres. Quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, waouh, c'était des conquérants. Ils ont parcouru tout le bassin méditerranéen, ils ont évangélisé de partout, ils ont fondé des églises, ils ont amené le réveil. Le Saint-Esprit nous est donné pour avoir un esprit de conquête. La Bible dit que son esprit n'est pas un esprit de timidité, mais son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. La Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je sais pas pour vous, mais moi, le Saint-Esprit, c'est un esprit de conquête. La Bible dit, je le lis pour vous, acte 1, verset 8, les dernières paroles de Jésus sur la terre. Il va dire à ses disciples, vous recevrez une puissance. Littéralement, c'est le mot qui a donné dynamite. T'imagines ce qui se passe? Tu reçois une puissance, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Waouh! Vous recevrez une dynamite. Ça va vous brasser à l'intérieur, ça va vous bouger à l'intérieur, ça va exploser de partout et vous serez mes témoins. Moi, je me dis, waouh, ça, moi, j'ai envie. Et littéralement, il dit, vous serez mes martyrs. Et j'attendais pas des amens, vous en faites pas. Je le sais, mais littéralement, c'est ce que le texte dit. Parce que ce que j'aimerais apporter pour avoir un esprit de conquête ce matin, j'aimerais vous apporter qu'il faut un esprit de sacrifice. C'est pas juste quelque chose pour faire bien, mais c'est la réalité, toute la Bible nous en parle. L'Église ne se bâtit pas sur le talent de quelques-uns, mais sur le sacrifice de beaucoup. Pour avoir un esprit de conquête, il faut avoir un esprit de sacrifice. Je le dis souvent, et ça vient pas de moi, mais c'est quelque chose que je me rappelle souvent. Un homme n'est jamais aussi grand, il n'est jamais aussi fort que lorsqu'il est à genoux devant son Dieu. Un esprit de conquête commence et il passe par un esprit de sacrifice. C'est mon premier point ce matin. Le royaume de Dieu se bâtit sur le sacrifice. C'est pas juste je le crois, j'en suis persuadé, la Bible me le dit. C'est pas je crois en mode je doute. Non, je crois, j'ai cette certitude. Prenez Adam et Ève. Lorsqu'ils ont chuté et qu'ils ont eu honte de leur nudité, Dieu, la Bible nous dit, il va les couvrir avec des peaux d'animaux pour couvrir leur honte. Il y a eu un sacrifice dès le début. Noé, il sort de l'arche, sacrifice. Abraham, les patriarches, ils ont une alliance avec Dieu. Dieu fait une alliance avec eux, ils font une alliance avec Dieu, ils bâtissent un autel, ils font un sacrifice. Moïse, la loi, le Lévitique, les commandements nous montrent que le peuple, lorsqu'il s'approchait de Dieu, il y avait un sacrifice pour entrer dans sa présence. Les rois, lorsqu'ils revenaient à Dieu sous l'impulsion des prophètes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le marquaient avec un autel et un sacrifice. Le royaume de Dieu se bâtit sur le sacrifice. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu parce que Jésus a tout donné pour nous. Il s'est sacrifié, il a donné sa vie et nous sommes enfants de Dieu. Je parlais de Noé, c'est un homme que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera dans les derniers temps, dans les temps que nous vivons. Et souvent, on lit les histoires, mais on passe dessus et puis presque on trouve ça normal. Mais vous avez réfléchi un instant avec Noé. Noé, pendant des dizaines d'années, a construit un bateau dans lequel il a mis toutes les espèces de chaque animal, mâle et femelle. Il les a sauvés dans l'arche, il les a mis dans l'arche, et à la sortie de l'arche, la première chose qu'il fait, il les sacrifie. Vous trouvez pas ça bizarre? C'est étonnant quand même. Je sais pas pour vous, mais moi je me dis, mais Noé, pourquoi tu fais tout ça? Si c'est juste, autant qu'il meurt dans l'eau. Ça sert à quoi ce que tu fais? Vous êtes déjà mis à la place de la brebis? La brebis, quand elle monte dans l'arche, Noé, c'est son sauveur. Il y a des petits cœurs qui sortent de ses yeux. Puis chaque fois qu'il vient la nourrir dans l'arche, il se dit, oh mon Noé, mais qu'est-ce que tu es fort, mais qu'est-ce que tu es formidable, et qu'est-ce que tu es merveilleux. Et à la sortie de l'arche, Noé vient vers la brebis, et la brebis se dit, je vais avoir un câlin de mon sauveur. Et là, il prend la brebis, il la met sur l'autel, bam, sacrifice. Vous êtes déjà mis à la place de la brebis? Moi, je lis les histoires, c'est sûr, c'est pas comme vous, je le vois là. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre un principe fondamental. Il faut que vous le captiez aujourd'hui. C'est que ce que tu sacrifies, avant que tu le sacrifies, eh ben c'est vivant. Je le redis, c'était puissant, j'ai essayé de vous y préparer, mais c'est pas grave. Ce que tu sacrifies, avant que tu le sacrifies, eh ben c'est vivant. Parce que si c'est mort, il n'y a plus besoin de le sacrifier. Les étudiants, on a tous été étudiants un jour, quand vous faisiez une recherche, ou quand vous faites une recherche, et puis vous commencez à bosser, puis il est 10h du matin, puis vous faites votre recherche, vous prenez les trucs, il y a le devoir à rendre, il y a le mémoire à faire et tout ça, puis vous commencez à bosser, et puis vous bossez, il est 16h, vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas vu le temps passer. C'était pas dur de jeûner. Tu pars en voyage, le nombre de jeûnes sans prière que j'ai fait dans ma vie à cause des études. Tu pars en voyage, tu conduis, t'as envie d'aller vite dans ta destination, les enfants dorment, tu te dis j'en profite, je fonce, j'y vais, pas plus de 130, mais j'y vais, je fonce, et là tu oublies de manger. Et c'était pas compliqué. Par contre, dès que tu jeûnes pour prier, t'as vu c'est dur. T'as remarqué, tu as faim. Ça n'arrive jamais, mais là quand tu décides de jeûner, tu as faim. Moi, il se passe des choses dans ma tête, vous n'avez pas idée. Quand je jeûne pour la prière, j'entends, vraiment, je vous dis, il se passe des choses dans le jeûne et la prière. Moi, j'entends la voix, non pas des anges, mais des chips dans le placard. Elle chante Alléluia. Mais si, moi, je suis capable. Je reçois des révélations, j'ai la vision des chocolats qui sont moisis depuis 3 ans parce que je les ai cachés pour les enfants. Et là, je les vois. Il se passe des choses dans ma tête. Je suis capable de voir une sauce tomate, des M&M's, des chips et de me dire, il y a un plat là. Il y a un truc à faire. Là, il y a un plat étoilé. Il y a quelque chose. Quand tu jeûnes, quand tu jeûnes et tu l'associes à la prière, bizarrement, il se passe ça. Bien sûr, quand tu fais un jeûne un peu plus long qu'une journée, sur un jeûne prolongé, ça n'arrive jamais dès le début. Bien sûr que non. Mais en général, au bout de 3-4, environ, c'est toujours ça, au bout de 3-4 minutes, ça arrive. C'est sûr. Mais parce que ce que tu sacrifies, avant que tu le sacrifies, c'est vivant. Paul va le rappeler aux Romains et à nous aujourd'hui, dans Romains chapitre 12, que je lis pour vous. Verset 1, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Il le dit, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. J'aimerais vous le dire avec tout l'amour que j'ai pour vous, ce qui sera de notre part un culte raisonnable, une célébration raisonnable ce matin, c'est que nous offrions nos corps comme un sacrifice vivant. Ça va nous coûter, ça va être dur, mais alors qu'on le fait, le royaume de Dieu se bâtit. Parce que le royaume de Dieu se bâtit sur le sacrifice. Mais il faut, bien sûr que c'est compliqué. Parce que c'est vivant avant que tu le sacrifies. Et littéralement, quand Paul dit « offrez vos corps », il dit le mot « être placé à côté ». Quand tu te places à côté, quand tu te mets à portée de main, quand tu pourvois, quand tu te mets à disposition, quand tu es proche, quand tu es prêt à secourir. Et quand il donne ce texte à la suite, vous lirez chez vous la suite du chapitre 12, 13, 14, vous verrez que Paul développe toutes les relations au sein de l'église, dans le service, dans le leadership, dans la famille, dans le travail, dans la vie quotidienne. Parce que je veux vous le dire, toutes nos relations, toute la bénédiction, toutes les bénédictions dans nos relations découlent d'un esprit de sacrifice. Toutes, toutes, et on le sait entre vous et moi. On le sait, quand on reçoit un jeune couple qui vient de se mettre ensemble, quel est le discours qu'on a avec eux quand ils vont se marier? On leur dit quoi avant le mariage? On leur dit, tu vas voir... Puis on a tous le même discours. Arrondir les angles. Mettre de l'eau dans son vin. Alors, les amis Facebook, on ne dit pas ça à Bordeaux. Peut-être en Bourgogne, mais pas à Bordeaux. On ne met pas de l'eau dans du bon vin. Donc, on met de l'eau dans son vin. On arrondit les angles. Il va falloir apprendre à communiquer. Il va falloir apprendre à travailler en équipe. Et les amis, c'est juste du langage poétique pour dire, il va falloir te sacrifier, mon ami. Mais si on ne te le dit pas comme ça, sinon tu pars en courant. Mais c'est ça. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. De deux, tu passes à un. Ça veut pas dire qu'il y en a un des deux qui est sacrifié. Ça veut dire que des deux, tu passes à un. Les deux ne forment qu'un. Mais on le sait tous. Messieurs, nous on le sait qu'on se sacrifie quand on se met en couple. Souvenez-vous, lorsque vous alliez au restaurant seul, t'étais tranquille devant ton menu, tu prenais le bon plat bien costaud, tu sais, l'entrecôte à 900 grammes. Bien grasse, parce que tu savais qu'après t'allais au sport. Donc tu prenais ça, le bon dessert. Une fois que t'es en couple, qu'est-ce qui se passe? Déjà, tu regardes plus la carte des menus pareil. Tu fais un petit droite-gauche, tu regardes le prix vite fait. Et tu laisses madame commander. Et madame commande toujours, c'est toujours pareil. Mesdames, on le sait. Quand on est en couple, vous êtes toutes pareilles. Chérie, j'ai pas trop faim. Je vais prendre une petite salade. Et elle prend sa salade. Puis toi, tu prends ton bon plat. Alors l'entrecôte passe à 800 grammes, parce que quand même, tu veux pas non plus trop en faire. Et là, toujours la salade arrive en premier, les amis. Forcément, il n'y a pas de cuisson. La salade arrive en premier. Et tu regardes madame manger sa salade, n'est-ce pas? Puis après, ton plat arrive. Et puis là, madame, toutes, on le sait. Toutes, je peux goûter. Et à la fin du repas, elle a mangé sa salade et la moitié de ton plat. On s'est sacrifié, les amis. Mesdames, vous riez, mais on le sait. Je le sais, vous avez un esprit de sacrifice dans la vie de couple. Je le sais. Toutes, chacune, quand vous étiez petite fille, avec toutes vos robes de princesse, et que vous imaginiez la maison de vos rêves. Vous avez toutes rêvé, surtout en ayant regardé certaines émissions de certaines chaînes de télévision où tu fais un peu de déco et tout ça. Vous avez toutes rêvé de votre magnifique dressing. Tu sais, ce moment où tu te lèverais le matin, les portes s'ouvriraient, chanteraient Alléluia, et tu aurais des tas de robes et des tas de chaussures, des foulards et des chapeaux qui servent à rien mais qui sont là. Et là, tu aurais ce dressing. Et on le sait, mesdames, vous avez un esprit de sacrifice. Parce qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans votre maison et vous faites face à votre armoire, vous savez qu'à côté se tiennent les maillots de foot de monsieur. Tu sais, ces maillots que quand il est arrivé, qu'il les a sortis de la valise après le mariage, tu t'es dit, oh, j'ai épousé un sportif. Ces mêmes maillots qui servent à une chose, c'est regarder les matchs de la Ligue des Champions, juste à ça. On le sait, vous avez sacrifié, on le sait. Et les parents, on a tous sacrifié un moment, c'est le moment du matin. C'est avant d'avoir des enfants, tu te lèves à l'heure que tu veux. Une fois que tu as des enfants, tu te lèves à l'heure qu'ils veulent. On le sait tous. Et du coup, comme tu le sais, moi, je me confesse devant vous, j'ai quelque chose d'important le matin, c'est d'avoir mon petit café, moi tout seul. Tu sais, où il n'y a personne qui est là, et je bois mon café. Et on a tous connu ça, je le sais, il y en a d'autres qui sont comme moi. Le matin où tu te lèves et tu allumes pas la lumière, tu te lèves une demi-heure avant, t'espères qu'ils vont pas se réveiller, t'allumes pas la lumière parce que tu as peur que si t'allumes la lumière, les enfants s'allument. Donc tu vas dans la pénombre, et puis on n'achète plus. Une fois que t'as des enfants, tu n'achètes plus la machine à café que tu préfères. Tu achètes celle qui fait le moins de bruit. Et donc tu t'approches de la machine à café, et au moment où tu fais couler ton café, au moment où tu t'approches, qu'est-ce qui se passe? Tu marches sur la poupée Reine des Neiges qui chante libérée, délivrée, qui réveille toute la maison. On le sait, là le moment, tu sais, le matin c'est fini. C'est fini, t'as sacrifié ça. On sacrifie tous, les deux deviendront une seule chair. Paul le dit, les relations familiales, parents-enfants, dans le service, dans l'église, tout découle, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Offre ton pied comme un sacrifice vivant sur Elsa la Reine des Neiges. Offre ton dressing, offre ton corps comme un sacrifice vivant. De là découle. Pourquoi? Parce que cette mentalité, cet état d'esprit, les amis, c'est mon deuxième point, nous conduit, c'est le fondement pour la révélation de l'Éternel qui pourvoit. Le sacrifice, le royaume de Dieu se bâtit sur le sacrifice. Et le sacrifice, c'est le fondement pour la révélation de l'Éternel qui pourvoit. Jésus a donné sa vie, et parce qu'il a donné sa vie, c'est la révélation de l'Éternel qui pourvoit notre salut. Jésus, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par son sacrifice, c'est la révélation de l'Éternel qui pourvoit la guérison. C'est la révélation de l'Éternel qui pourvoit la réconciliation. C'est la révélation de l'Éternel qui pourvoit à ta guérison, à tes blessures. Il les pense, il les guérit de celui qui est capable de te restaurer, de te réconcilier, d'amener une bénédiction, des promesses, un espoir là où il n'y en avait plus. Le sacrifice de Jésus amène la révélation de l'Éternel qui pourvoit nos besoins. Et l'exemple qui le marque le plus, je trouve, dans la Bible, c'est Abraham. Genèse au chapitre 22, l'histoire d'Abraham est la suivante pour faire un résumé vraiment succinct. C'est qu'Abraham est un homme, lorsque Dieu va l'appeler, il est avec Sarah, son épouse, et Dieu va lui dire, écoute, je vais rendre ton nom grand, je vais te bénir, et toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. Et quand il dit ça, Abraham est vieux, Sarah est vieille, et ils n'ont pas d'enfants. C'est juste impossible que la promesse s'accomplisse. C'est pas possible. Mais il va croire dans cette promesse. Abraham va avoir tellement de foi, c'est celui qu'on appelle le père des croyants, le père de la foi, et sa foi va être impressionnante. Et puis, Dieu va honorer sa foi, et Dieu va accomplir sa promesse. Il va faire le miracle, et après bien des péripéties et bien des chapitres dans la Bible, Dieu va donner Isaac à Abraham. Abraham va avoir son fils. Abraham et Sarah vont avoir le fils de la promesse, Isaac. Et au chapitre 22, Dieu vient voir Abraham, il lui dit, écoute, la Bible dit, il va mettre la foi d'Abraham à l'épreuve, il va mettre Abraham à l'épreuve, et il va lui dire, donne-moi ton fils. Je sais pas comment on aurait réagi à la place d'Abraham, mais c'est pas simple à ce moment-là. C'est pas juste, tu offres la promesse, tu offres l'accomplissement de la promesse, tu offres le fils de la promesse, tu offres celui qui symbolise que Dieu a parlé et que Dieu a accompli ce qu'il avait dit. Que Dieu était fidèle et il offre tout ça. Et Abraham va être prêt à le faire. Abraham va prendre le bois pour le sacrifice, il va prendre son fils, ils vont aller sur la montagne. Et alors qu'il est sur la montagne, qu'il est prêt à aller jusqu'au bout, Dieu lui dit stop. Je sais que tu m'es fidèle. Je sais que tu m'as pas refusé ton fils. Et puis là, Abraham va se tourner, il y aura un animal pour le sacrifice, il va faire le sacrifice à Dieu. Et là, Abraham va dire, à la montagne de Dieu, il sera pourvu. Pour la première fois dans nos Bibles, il apparaît, Yahvé Jiré, l'Éternel qui pourvoit. Pourquoi? Parce que Abraham était prêt à sacrifier. Littéralement, lorsque Dieu dit, tu n'as pas refusé ton fils, alors je te rendrai grand. Il dit ceci parce que tu ne m'as pas refusé, freiné, retenu, gardé pour toi. Alors je vais te rendre grand, je vais t'accroître, je vais te donner beaucoup, je vais te rendre nombreux, je vais élargir, je vais tirer, tu vas accumuler. Parce qu'à la montagne, il sera pourvu. Parce que Dieu multiplie ce qu'on lui donne, jamais ce qu'on garde. Mais Dieu multiplie toujours ce qu'on lui donne. C'est un principe spirituel. Lorsque tu sacrifies et que tu es prêt à sacrifier, le royaume de Dieu commence à se bâtir. Et c'est la révélation de l'Éternel qui pourvoit, parce que ce que tu mets entre les mains de Dieu, Dieu le multiplie. Si tu ne donnes pas, Dieu ne multiplie pas. Pas parce qu'il ne veut pas multiplier, mais parce que même si vous n'avez pas étudié dans les mathématiques, vous êtes tous capables, ce matin, vous allez tous passer pour des savants, devant les milliers sur Facebook. Une fois zéro, ça fait combien? C'est votre moment de gloire, les amis. Moi, je connais la réponse. Hein. Deux fois zéro, ça fait? Trois fois zéro, ça fait? Un million de fois zéro, ça fait? Parce que ce que tu donnes pas et ce que tu gardes, Dieu le multiplie pas. C'est aussi simple que ça. Par contre, ce que tu mets entre les mains de Jésus, Dieu le multiplie. Même si ça semble rien, même si ça semble insignifiant, même si ça semble pas assez, ce que tu mets entre les mains de Jésus, Jésus le multiplie. Cinq pains et deux poissons, c'est pas grand-chose pour nourrir des milliers de gens. Cinq pains et deux poissons, le petit garçon va les donner entre les mains de Jésus et ça va nourrir une foule. Pourquoi? Parce que Jésus multiplie ce qu'on lui donne, toujours. Et le petit garçon va lui donner, c'est sûrement pas assez, c'est sûrement insignifiant au regard de la foule, mais c'est ce que prend Jésus. Et Jésus n'a pas multiplié le reste, il a multiplié les cinq pains et deux poissons. Comment ça s'est passé? D'abord, Jésus prit le pain, il le rompit. Il y a eu un brisement. Il y a eu un sacrifice, mais c'est le début de la multiplication. Alors qu'il prend cinq pains et qu'il les rompt, alors qu'il les brise, mais il n'y a plus cinq pains, il y a plein de petits morceaux de pain, et c'est le début de la multiplication. Parce que ce que tu donnes à Jésus, Jésus le multiplie, toujours. Quand tu mets ta famille entre les mains de Dieu, mais la Bible me dit que nul ne peut nous ravir de sa main. Parce que ce qui est entre les mains de Dieu devient inaccessible au diable. Quand tu places ta vie, que tu places tes rêves, que tu places tes projets, que tu places ta famille, que tu places ton entreprise, que tu places ton église, que tu places ton quotidien entre les mains de Jésus, plus personne n'y a accès. Nul ne peut nous ravir de sa main. Ce qui veut dire que ce que tu mets entre les mains de Jésus, tu ne le perds jamais, puisqu'il le protège. Il en prend soin et il le multiplie. C'est un principe. À la montagne, il est pourvu. Oui, c'est compliqué d'aller au sommet d'une montagne. Oui, c'est difficile. Oui, des fois, tu as envie de t'arrêter. Tu es peut-être découragé. Tu es en proie au découragement. Tu as les pensées de découragement. Mais vas-y, parce qu'à la montagne, il sera pourvu. Il y a une provision pour toi, alors que tu te donnes entièrement. Il y a une bénédiction pour toi. Il y a des promesses et il y a un espoir pour toi lorsque tu donnes tout entre les mains de Jésus. Je ne vais pas prêcher sur les cinq pains et deux poissons, mais il faut que je le dise. Les cinq pains et deux poissons, à la fin, il y a eu 12 corbeilles de reste. Je suis sûr que le petit garçon, il est reparti avec plus que ses cinq pains et ses deux poissons. C'est certain. Ce que tu vas mettre entre les mains de Jésus, à l'instant, Jésus va le multiplier. J'aimerais que vous puissiez comprendre que ce n'est pas un principe naturel. C'est un principe spirituel. Dans nos familles, quand tu vas placer les besoins dans l'église, regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne cherchez pas votre intérêt, mais ceux des autres. Quand tu fais passer les autres, quand tu te sacrifies, quand tu renonces, quand tu fais passer les autres avant toi, c'est là que le royaume de Dieu se bâtit. Mais c'est un principe spirituel. Personne ne grandit avec cet état d'esprit de tout sacrifier. Regardez un enfant. Ça fait partie de sa construction d'apprendre ce qui est à lui. C'est mon puzzle, et c'est ma voiture, et c'est mon papa, et c'est ma place. Et c'est important. Ils se construisent avec cette notion-là. Mais c'est pour vous montrer que c'est pas humain. C'est pas naturel, mais c'est quelque chose que nous devons comprendre, quelque chose qui doit changer dans nos mentalités, parce que c'est spirituel. Si on est fils, on est héritier. Tout le monde est d'accord avec ça? Dans le monde naturel, pour posséder l'héritage, il faut que l'autre meure. Écoutez bien, dans le monde spirituel, pour posséder l'héritage, il faut que toi tu meures à toi-même. Dans le monde naturel, dans notre monde dans lequel on grandit et qui forge nos pensées. Pour posséder l'héritage, il faut que l'autre meure. Et Jésus est mort. Mais il est ressuscité, il est vivant. Aujourd'hui, il intercède pour nous auprès du Père. Donc, pour posséder l'héritage, Jésus ne va pas remourir, il est mort une fois pour toutes. Mais pour pouvoir entrer en possession de cet héritage, je dois mourir à moi-même. Et ça, c'est spirituel. Si quelqu'un veut être mon disciple, dit Jésus, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Tu as déjà donné ton cœur à Jésus et puis tu veux porter du fruit. Dans ton service, tu veux porter du fruit dans ta vie, dans ton quotidien, dans ta famille, tu veux porter du fruit. Ce que tu veux récolter, tu dois le semer. Et Jésus nous explique que si le grain qui est tombé en terre, il ne meurt pas, il ne peut pas porter du fruit. Tu as commencé à porter du fruit et tu vas en porter davantage. Ta prière en cette année, je veux porter plus de fruits. Mais le principe, c'est l'émondage. Jésus donne cette parabole. Il dit, les cèpes et les sarments, le sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. L'émondage, c'est tu es coupé. Certes, tu portais du fruit, mais c'est difficile. On te coupe. Mais pour que tu portes encore plus de fruits. Parce que le sacrifice, c'est le début de la multiplication. C'est le début de la provision de Dieu. Dans nos foyers, Marie, je veux m'adresser aux hommes un instant. Même ceux qui ne sont pas mariés et qui vont se marier un jour. Il faut développer cette mentalité avant le mariage. Marie, la Bible dit « Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré pour elle. » Pas il a fait des grandes choses, il s'est sacrifié. Aimons nos femmes. Enfin, aimez votre femme. Je veux pas de mélange. Aime ta femme. Comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Tellement de douleur dans la vie des épouses, dans la vie des femmes, qui seraient guéries, qui n'auraient même jamais eu lieu, si dans le présent ou dans le passé parfois, un mari avait fait son job, un papa avait fait son job. Messieurs, notre responsabilité, le mariage, c'est pas pour qu'elle m'aide à accomplir ma destinée. Ça en fait partie. Mais ton but, ton objectif, ta mission dans le mariage, Jésus la donne. C'est que tu te donnes entier pour qu'elle, elle entre dans sa destinée. Jésus s'est livré. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. En tant que leader, lorsque je suis avec mes équipes, lorsque je réfléchis à un projet dans mon entreprise ou dans l'église, je ne suis pas là, ils ne sont pas là pour me servir, mais je suis là pour les servir et donner ma vie. Et alors que je le fais, le royaume de Dieu commence à se bâtir, parce que c'est le principe. Et l'esprit de conquête se met à se développer, et je reçois la révélation de l'Éternel qui pourvoit, et là, bim, la multiplication arrive, et là, bim, le ciel il s'ouvre, et la bénédiction arrive. Pourquoi ? Parce qu'à la base, il y a un esprit de sacrifice. Les mamans, chaque fois que je parle aux mamans, chaque fois que je prêche aux mamans, j'ai toujours la même image biblique qui me revient. C'est l'image de la maman de Moïse, Jochébed. Je ne vais pas développer l'histoire, mais juste vous savez, elle va avoir un fils dans un contexte où Pharaon tue tous les premiers-nés. Et la Bible dit, elle va voir que l'enfant était beau. C'est pas juste, il était beau gosse, s'il y avait une beauté intérieure, littéralement. Elle va voir, il y a quelque chose sur cet enfant, il y a une destinée. Et elle va nourrir un rêve, parce qu'elle va voir qu'il est différent de ses frères. Il y a quelque chose. Et elle nourrit un rêve que lui va être le libérateur. Et on connaît l'histoire. Elle va fabriquer un panier. Elle va mettre le bébé dans le panier. Et elle va le déposer sur le fleuve. Et le panier va aller jusqu'à la fille de Pharaon, qui va accueillir Moïse, va en prendre soin, l'éduquer et l'élever comme son fils. Et Moïse va être le libérateur. Tout a commencé parce qu'une maman a nourri un rêve. Et que son rêve, elle l'a mis dans un panier, qu'elle s'est mise au bord du fleuve, et qu'au bord du fleuve, elle a lâché le panier. Il y a eu ce moment, elle a entretenu pendant des mois ce rêve. Elle a fabriqué ce plan, elle a fabriqué ce panier, elle a vu quelque chose de différent, elle a entretenu le rêve. Mais il y a ce moment, pour que le plan de Dieu se mette en route, pour que le rêve de Dieu commence à s'accomplir, il y a ce moment où dans le fleuve, là où tous les autres bébés sont morts, elle va lâcher le bébé et elle va lâcher prise. Elle va sacrifier, elle va offrir, elle va mettre à la disposition. C'est toujours comme ça que ça se passe. Anne va faire une prière, elle a un besoin, elle veut un enfant, et elle va faire cette prière, et c'est à partir de ce moment-là qu'est déclenché l'exaucement. Si tu me donnes un fils, je te le consacre. Ce que tu vas me donner, je te le donne. Et parce qu'elle le donne, il y a un prophète qui arrive pour un peuple. Les rêves de Dieu pour ta vie, la conquête de tes promesses et de choses que Dieu... Il faut lâcher. Je sais que c'est dur. Je sais les mamans de familles monoparentales, je sais combien c'est difficile. Mais alors que tu lâches, que tu refuses de garder pour toi, que tu relâches ton besoin, que tu relâches ta souffrance, que tu l'exprimes, que tu refuses de la garder pour toi, de freiner, de retenir, alors que tu le donnes, c'est le début du plan de Dieu pour ta vie. C'est le début de l'accomplissement de Dieu pour toi. Lorsque le royaume de Dieu se bâtit sur le sacrifice, et alors que tu relâches, alors que tu lâches prise, alors que tu offres et que tu donnes tout, c'est le début de l'Éternel qui pourvoit. Les promesses et l'héritage sont donnés en réponse à un esprit de sacrifice. Parce qu'Abraham a été prêt à sacrifier, il va recevoir une révélation plus grande des promesses. Dieu va les fixer avec les étoiles du ciel et le sable de la mer, la poussière de la terre. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour Abraham? Il se passe que ses yeux seront toujours fixés dans le quotidien, pas avant cette histoire, après. Ça va être fixé dans son esprit. Dieu va le rappeler. Regarde les étoiles dans le ciel, regarde le sable de la mer, ta postérité sera encore plus nombreuse. Le royaume de Dieu se bâtit sur le sacrifice. Et il y a une prière qui le déclenche. Jésus est à Gethsémané, les disciples l'ont laissé. Et il fait cette prière, non pas ma volonté.
Ce message a été enregistré à l'église Momentum de Bordeaux. Pour le réécouter, rendez-vous sur eglisemomentum.com.
Écoutez, respirez, vivez, Phare FM.
Your best days are not behind you. He's heard every desperate prayer. Let every breath you breathe remind you of every time that he's been there. Don't you forget he's made a way. And I know he hasn't changed. He's still God, still good, still strong, still true, still giving second chances. Before you, it's the one who split an ocean wide, and the God who says that he is for you has never lost a single time. Don't you forget he's faithful always. No, he's never gonna change. Second chances, and he still loves you. Still by your side, still fights your fight. Everything he's always been is everything he'll always be. He's still God. He's still God. He's still working miracles we can't explain. Facing all our giants, he's still rolling stones away. He's still breaking the unbreakable chains. Oh, he's done it, he'll do it. 'Cause even on your darkest day, he's still God, still good, still strong, still true, still giving second chances. He still loves you. Everything he'll always be. He's still God. 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 He's still God.
Feel Good, Jérémy Rosado sur Phare FM. On poursuit avec Ed Sheeran, American Time. C'est à 2h05 qu'on va retrouver les langages de l'amour. C'est Phare FM qui vous accompagne. Mireille avec vous jusqu'à 5h.
We were a long way from home. Haven't seen you in so long. But it all came back in one moment. And the years started cold. But I didn't notice it all. Chinese food in small white boxes. Live the life we saw in Friends. Your room, it barely fits the mattress. Wake up, leave for work again. The wind, it seems to blow right through us. Down jackets are the trend. The rush of rushing deep into love. English girl in an American town. No elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me. My English girl in an American town. In an American town. Days come and go, but it ends when doors close. And the scent of your perfume's on me. You're useless with your phone. Electric when one on one. Darling, we watch comedies and miss the endings. Conversations till the dawn. Any change in tide, we push against it. Challenge meanings in the songs and head out without a reservation. Drinking out of paper bags and wasting time is time not wasted. With my English girl in an American town, no elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. In love and we don't wanna be found. It's just you and me. My English girl in an American town. And when our eyes are closed together, I can't explain how the scent of your perfume takes me to a higher place. We can watch it unfold, but we can't change how it tastes. And rebuild when it breaks down. We drink Moscow mules and steal the cups from mostly the Bowery Bar. What a perfect day to fall in love on. What a way to make a start. It appears when you think all is lost, then you don't remember when it started. Never have to pretend. With my English girl in an American town, no elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be.
Je veux être original. Je suis ni beau, ni moche, ni petit, ni grand. Et ça me gêne, pas tout à fait bête. Même pas demi-génial. J'ai pas les moyens de m'échapper de la moyenne. Sur Google Images, si tu tapes mec normal, la première photo devine quoi. Bah c'est la mienne. J'étais assez fier qu'on me rende hommage. La banalité, j'excelle enfin dans un domaine. J'ai des tonnes d'idées moi aussi. J'ai envie de faire bouger le monde. Figé comme une statue de cire, je veux plus qu'on me réponde. Ça c'est déjà fait, oh. Ça c'est déjà fait, oh. Ça c'est déjà fait, oh. Tout a été fait. Ça c'est déjà fait, oh. Ça c'est déjà fait, oh. T'aimer pour de vrai, t'aimer comme je t'aime, on l'a jamais fait. Je suis pas un mec cool et pourtant j'essaye. Je suis le gars sympa qu'on écoute à peine d'une oreille. Si j'existais pas, je crois que ce serait pareil. Dans le dictionnaire, je suis le contraire d'exceptionnel. Plus peur de vivre avec des si, plus peur de me jeter dans le vide. Ma vie d'avant, je la déchire. Je vais suivre mes désirs puisque ça c'est déjà fait. Oh, ça c'est déjà fait. Oh, ça c'est déjà fait.
à faire. Oh, tout a été fait. Mmh, ça s'est déjà fait. Oh, ça s'est déjà fait. Oh, t'aimer pour de vrai, t'aimer comme je t'aime, on l'a jamais fait. Depuis que je te tiens la main, on dirait bien que je suis quelqu'un. Ça a l'air fou, mais maintenant, je crois que je me fous du regard des gens. Je l'ai déjà fait, je pourrais le refaire. Jamais me défaire de tes bras parfaits. Ça c'est déjà fait, je pourrais le refaire. Même si j'ai rien fait, t'aimais pour de vrai, au moins je l'aurais fait.
Pouncing raider race through the dapple shadows. Light was pouring down upon the stepping stones. Felt like morning coming for his throne. I don't know why, but it looked like a tiger's driving sky. Well, half the world was pulling on his collars. His nights are in the day to the hours. Glow was coming down, coming down. I don't know why, but it felt like a tiger's driving sky. Tell me why I'm underneath the tiger stripes sky. Oh, tell me why I'm underneath the tiger stripes sky. I'll take a turn from the known road. Think I'll ride a tale of my own. I'm going southbound to where the ocean's flirting with the coast. Tell me why I'm underneath the tiger striped sky. My stripes be painting with new colors, beginning with dove white. Oh, I'm giving up my stripes, painting with new colors, beginning with dove white.
De l'amour. Après 25 ans de conseils aux couples, je suis convaincu qu'il n'y a en principe que 5 langages de l'amour. 5 manières dont les gens parlent et comprennent l'amour émotionnel. Voyons-les ensemble. Premièrement, des paroles d'encouragement. Utiliser des mots qui font plaisir à l'autre. Merci d'avoir sorti la poubelle. Au lieu de dire, il était temps que tu sortes la poubelle, les mouches allaient le faire à ta place. Deuxièmement, les cadeaux. Un cadeau veut dire, il a pensé à moi. Regardez ce qu'il m'a apporté. Troisièmement, des services rendus. Faire quelque chose pour votre épouse, quelque chose que vous savez qu'elle aimera. Préparer un repas, laver la vaisselle, passer l'aspirateur, sont tous des services rendus. Quatrièmement, le temps de qualité. Je veux dire par là, accordez à votre conjoint toute votre attention sans partage. Allez se promener ensemble ou être assis côte à côte sur le canapé, sans télé, et parler ensemble et s'écouter. Cinquièmement, le toucher physique. Lui tenir la main, la prendre dans vos bras, l'embrasser. Les rapports sexuels sont tous des expressions d'amour. La meilleure façon de garder l'amour en vie dans un couple, c'est d'apprendre à connaître le langage de l'autre et de le parler régulièrement.
C'était Les Langages de l'amour de Gary Chapman, une production de l'Institut biblique Moody de Chicago en partenariat avec Phare FM.
Phare FM, au-delà de la musique. Écoutez.
In a world that stands divided, I have decided. In a world that stands divided, I have decided. With my in a world that stands divided, I have decided. With my hands and my feet, with my heart and my voice, I will follow Jesus. With my life and my song, I have made this my choice. I will follow Jesus. No, no turning back. No turning back. 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 In a world that stands divided, let the church stand united. If you're with me, let me hear you say,